le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout, agréable condition d'écoute du programme de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Le courant électrique rétabli à Goma depuis le lundi 13 novembre, mais les conséquences de la coupure pendant près de 6 jours restent perceptibles. À l'hôpital général de Keshiro, par exemple, les groupes électrogènes utilisés pendant cette période ont endommagé les couveuses. Le problème a été présenté le mardi dernier à la représentante résidente AI de l'UNFPA. Elle promet de porter haut ce plaidoyer. En Ituri, les patrouilles des soldats onusiens permettent de rassurer la population contre les menaces de groupes armés à la périphérie de Komanda. Elles ont aussi favorisé le retour de certains déplacés. Des habitants l'ont rapporté lors du passage des forces de la MONUSCO dans leur contrée. Le major Hassan Keira, porte-parole militaire de la MONUSCO, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Il revient sur l'opération Springbok lancée par la mission onusienne pour assurer la protection de la ville de Goma et de la cité de Sake.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Nous commençons cette page d'actualité à Kinshasa. La MONUSCO, à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, a apporté son soutien et remis officiellement un bloc de haute sécurité à la direction de l'administration pénitentiaire de Ndolo à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie inaugurale organisée samedi 18 novembre dernier. Cette remise, c'est pour contribuer à la stabilisation du service pénitentiaire de Ndolo. C'est également pour avoir suffisamment d'espace permettant aux détenus d'être gardé dans le respect des règles nationales et internationales. Jeff Opela pour d'autres précisions.
Ce bloc de 5 cellules hautement sécurisées est doté de nouveaux lits en métal et des matelas bien aménagés. Moussa Dimandé, représentant de la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, explique.
En fait, ce projet est né suite à la demande des autorités de la prison militaire après que des détenus incarcérés pour des crimes liés au terrorisme aient été transférés de la prison de Beni à celle de Ndolo. Et donc les autorités ont exprimé le besoin d'avoir un bloc de sécurité qui pouvait permettre d'héberger cette catégorie de détenus-là.
Par ailleurs, les responsables de la prison militaire de Ndolo, le commandant Flori Manga, n'a pas caché sa satisfaction.
Nous sommes vraiment satisfaits parce que notre idée vient de se matérialiser aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants envers l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO parce que ce n'est pas la première fois que cette unité vient nous assister parce que les 10 travaux ont été financés par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO.
Le commandant a promis de prendre soin de ces blocs de haute facture et réitère ses remerciements aux responsables de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO pour leur engagement. Notons que plusieurs officiers militaires ont répondu présents à cette cérémonie inaugurée.
Comme annoncé dans les titres, à Goma, le courant électrique a été rétabli depuis le lundi 13 novembre dernier, mais les conséquences de la coupure pendant près de 6 jours restent perceptibles. À l'hôpital général de référence de Keshiro, par exemple, les groupes électrogènes utilisés pendant cette période ont endommagé les couveuses. Le médecin directeur de cet hôpital a présenté le problème mardi dernier à la représentante résidente intérimaire du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Le docteur Fabrice Bichengue demande à cette agence onusienne, ainsi qu'à d'autres partenaires, d'appuyer ce centre avec de nouvelles couveuses, car c'est l'hôpital général de Keshiro qui reçoit des femmes déplacées et les victimes de violences sexuelles ayant besoin d'une prise en charge en néonatologie pour leur bébé. Le docteur Fabrice Bichengue s'exprime au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a un groupe électrogène que nous avons allumé, malheureusement, qui a endommagé certains appareils au niveau de l'hôpital, notamment les couveuses, qui nous aident à prendre en charge ces nouveaux-nés issus des VBG, issus des cas de SIA, issus des cas qui viennent de déplacés, qui ont accouché ici chez nous, voire même au niveau des camps de déplacés. C'est ça le grand souci que nous avons connu, que nous sommes en train de réparer. Et c'est un plaidoyer pour nous que nous lançons du côté de UNFPA et les autres partenaires qui peuvent nous aider à trouver ces couveuses pour la prise en charge de ces nouveaux-nés qui sont nécessiteux.
Et pendant la coupure du courant, comment avez-vous assuré la prise en charge des bébés?
Heureusement, nous avons rallumé un autre groupe et rapidement nos équipes techniques se sont mises au terrain. Il y a 2 couveuses qu'on a réparées. et on a été obligé de mettre soit deux nouveau-nés dans une même couveuse. Et il y a une autre méthodologie que nos pédiatres utilisent pour relayer l'absence du courant et ainsi que la panne que nous avons connue, notamment la méthode kangourou que nous avons utilisée au niveau de notre service qui nous a aidés. Et heureusement que le courant est déjà rétabli.
Pour sa part, Suzanne Mandong, représentante résidente intérimaire du Fonds des Nations Unies pour la population RDC, a promis de porter haut ce plaidoyer. Direction la province de l'Ituri, les patrouilles des casques bleus de la MONUSCO permettent de rassurer la population contre les menaces de groupes armés à la périphérie de Komanda. Elles ont aussi favorisé le retour de certains déplacés. Ceci qu'ont déclaré certains habitants de la localité de Ngombe Nyama dans la chefferie de Basili. C'est à la limite avec celle de Walese Vankuto dans les territoires d'Irumu. Ils l'ont dit lors du passage des forces de la MONUSCO dans leurs entités. Isaac Meopi a récemment participé à une patrouille des casques bleus à Komanda. Il nous propose ce reportage.
Des dizaines de militaires du contingent indonésien de la MONUSCO reçoivent des instructions de leur commandant pour les opérations de patrouille. Ensuite, ils montent dans trois véhicules sécurisés à destination de Ngombe Nyama, qui étaient souvent ciblés par les rebelles des ADEF. Des attaques qui avaient entraîné les déplacements d'une bonne partie de la population de ces milliers quasiment désertés. Depuis quelques mois, on observe un afflux de retournés dans la zone grâce au déploiement des FARDC. Pour consolider cette paix relative, les casques bleus de la MONUSCO font des patrouilles diurnes et nocturnes dans les localités situées le long de la route nationale numéro 4. Selon les chefs de la localité de Ngombe Nyama, cela permet de rassurer les habitants qui vivaient dans la peur et leur permet d'entreprendre les activités agricoles, ce qui encourage les retours d'autres déplacés.
Les casques bleus passent ici pendant les patrouilles, s'entretiennent avec la population sur la situation sécuritaire, ce qui fait que pendant ces jours, les habitants se rendent au champ, récoltent des vivres et retournent en paix à la maison. Il n'y a pas de problème dans notre chefferie de Basile.
Ces patrouilles se font en collaboration avec les FARDC en vue d'étouffer les menaces des groupes armés dans cette partie du territoire d'Irumu. Bounia, Isakre Moyope, Radio Okapi.
À Kinshasa, sensibilisation des jeunes candidats aux élections de 2023 sur les enjeux de la désinformation et de la mésinformation en ligne, ainsi que les divers contours de la loi électorale. Ce sujet a été au centre d'un atelier organisé jeudi à Kinshasa, comme je l'ai dit. Il a été initié par la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO. Cela en partenariat avec d'autres sections substantives internes à la mission et des entités extérieures comme la CENI, le ministère du numérique, le CESAC ainsi que le PNUD. Jeff Opela pour d'autres précisions.
Plus d'une soixantaine de jeunes candidats ont répondu à ces rendez-vous. Une mise en commun d'échanges sur les enjeux de la désinformation et de la mésinformation en ligne ainsi que les divers contours de la loi électorale ont été menés en vue de créer des conditions d'émulation qui aidera le jeune candidat à s'investir davantage dans les combats pour un Internet responsable. Nathalie Ndongose, directrice du cabinet de la MONUSCO, explique.
La désinformation et les discours de haine représentent une menace pour la société qu'il ne faut pas sous-estimer. Les discours de haine et la désinformation sont susceptibles de dérailler toute initiative qui a pour but d'améliorer le bien de chacun d'entre nous.
Alidou Ngapna, coordonnateur unité nationale de reporting et d'enquête spéciale du BCNUDH, exhorte les jeunes candidats à avoir un autre discours.
Je pense qu'on peut gagner des élections en jouant dans le fair play. Et ce serait vraiment utile que les jeunes candidats puissent avoir un autre discours et se prémunir des discours de haine, s'en distancier, condamner et éviter de les propager.
Ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à sensibiliser et renforcer les capacités des jeunes et des plateformes politiques sur les responsabilités des candidats dans les contextes électoraux à venir et sur les défis ainsi que les menaces de la désinformation et du discours de haine en RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans son premier entretien Grégoire de Nantes. Il est chef du projet Armes légères et petits calibres du service de lutte antimine de la MONUSCO UNMAS. Il parle du forum sur la validation du plan d'action national de contrôle et de gestion des armes légères et petits calibres en RDC, assise tenue le 7 novembre dernier à Kinshasa. Grégoire de Nantes s'entretient ici avec Jeff Opela.
Bonjour Monsieur Grégoire de Nantes.
Bonjour.
On vient d'assister à la validation d'un projet que vous avez accompagné. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de ces forums ?
Eh bien, c'est la conclusion d'une année de travaux où, après la fin du plan d'action 2018-2022, nous avons appuyé la CNC, la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre. Nous les avons appuyés pour la rédaction du futur plan d'action national. La différence avec les précédents, on a tenu avec la CNC à mettre plus orienté sur les actions, et donc les actions mesurables, contrôlables. Et donc aujourd'hui, c'était la validation du plan d'action dans la lignée de l'atelier que nous avons eu il y a 15 jours pour bien prendre en compte toutes les remarques de tous les participants, les participants de diverses administrations de l'État, donc toutes celles qui sont concernées par la lutte contre la circulation illicite des armes légères.
Et quelle sera l'étape suivante de l'accompagnement des UNMAS ?
Après cette étape d'aujourd'hui, qui est vraiment l'aboutissement de nos travaux, l'étape suivante, ça sera de monter un rapport d'étape, vraisemblablement au mois de juin, pour pouvoir déjà mesurer. Donc les actions qui ont bien marché, bien on fera un rapport dessus, et les actions qui ont moins bien marché, on ira voir pourquoi. Avec la CNC, bien entendu, hein, on les accompagne juste dans la technique de l'évaluation et de proposer à terme, hein, au mois de juin si possible, lors d'une réunion interministérielle, des mesures correctrices qui seront proposées à la décision des ministres participants. Les ministres participants à la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre sont avant tout le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Il y a aussi partie prenante, et c'est un membre important, les forces armées, donc le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères pour tout ce qui est trafic transfrontalier et la coopération régionale sur le traçage des armes légères et de petit calibre, et le ministre de la Justice pour le traitement des gens qui pourraient enfreindre la législation sur ces armes. Voilà, donc le but, c'est une réunion ministérielle avec un rapport d'étape qui sera destiné également à montrer aux Nations Unies et à la communauté internationale que l'affaire est prise en main et de faire appel à toutes les coopérations, toutes les bonnes volontés. Voilà. On n'aide que les gens qui avancent.
Après une année d'accompagnement des UNMAS auprès de cette commission, voir aujourd'hui ces projets être validés, quels sont vos ressentis ?
Le ressenti, c'est un grand soulagement d'avoir atteint le but dans des délais raisonnables et le grand espoir d'avoir quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va pouvoir faire avancer. Voilà, donc on appuie la CNC. Alors nous, on n'a pas grand mérite, hein. C'est d'abord notre métier de participer à ça. Et surtout, nous, ça nous permet de voir loin, parce qu'ils sont un petit peu submergés dans les activités. Et nous, on est un peu la vision de loin, c'est un peu la vision... donc on est vraiment complémentaires.
Quelle a été la motivation des UNMAS à accompagner le gouvernement congolais dans cette démarche?
L'UNMAS est très connu, Mine Action Service, donc pour sa lutte anti-mine. Un aspect beaucoup moins connu, mais tout aussi important, et surtout en RDC, c'est le domaine des armes légères et de petit calibre. Dans d'autres pays, UNMAS a contribué, notamment en Côte d'Ivoire, à la fin de l'ONUCI, à remettre en sécurité toutes les armes, avec la volonté du gouvernement de sécuriser les armes. Donc ici, c'est pareil, nous, on est l'autre volet de UNMAS.
Ça fait partie de la mission de la MONUSCO ?
Oui, dans la résolution, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout un paragraphe pour appuyer le gouvernement dans la sécurisation et dans la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Donc il y a trois volets dans cette lutte. Le premier, c'est le DDR, donc les armes qui sont malheureusement aux mains de gens qui ne devraient pas avoir ces armes. Le DDR est chargé de rassembler ces armes. Il y a les armes de l'État pour les aider à éviter que ces armes continuent d'alimenter les circuits un peu gris. Et au milieu, il y a la section armes embargo qui enquête pour voir un petit peu les flux des armes, etc., pour savoir identifier d'où viennent les trafics. Et voilà. Donc ces trois volets sont complètement complémentaires et ça ne se recoupe pas. C'est vraiment imbriqué, mais ça ne se recoupe pas.
Monsieur Grégoire de Nantes, vous êtes chef de projet armes légères petit calibre de UNMAS, qui est un service de lutte anti-mine de la MONUSCO. Merci.
Un convoi humanitaire a été attaqué par des individus armés dans le territoire de Fizi. Nous sommes au sud Kivu. Au cours de cette attaque, deux travailleurs humanitaires ont été enlevés et trois de leurs véhicules incendiés. La coordonnatrice humanitaire par intérim, Susanna Kalek, exprime sa profonde préoccupation face à la multiplication d'attaques contre les humanitaires et la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Elle précise que cette situation a un impact grave sur l'accès humanitaire. Je salue la libération saine et sauve de deux travailleurs humanitaires intervenus tard dans la soirée de lundi 13 novembre. Toutefois, je rappelle que les humanitaires ne sont pas des cibles. L'enlèvement des humanitaires est inacceptable et constitue une violation grave du droit international humanitaire. Je condamne fermement cet acte et invite les acteurs armés à préserver l'espace humanitaire et à respecter le droit à l'assistance des personnes dans le besoin, a-t-elle déclaré. Malgré ce contexte d'insécurité très préoccupant, les partenaires humanitaires maintiennent néanmoins leur présence sur le terrain. Ils intensifient leur engagement en fournissant de l'eau, de la nourriture, des soins de santé et des abris et là où c'est possible. La coordinatrice de la prévention de la famine pour les Nations Unies s'est rendue dans l'est de la RDC la semaine dernière. Rina Ngalani a notamment visité le camp de déplacés de Rusayo 2, situé à l'ouest de Goma. Les communautés de déplacés avec qui elle a pu échanger pendant plus d'une heure lui ont fait part de leur volonté de rentrer chez elles et de récupérer leur autonomie, notamment alimentaire, mais que les fonds manquaient.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité le major Hassan Keira, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il revient sur l'opération Springbok lancée par la mission onusienne. Son but, assurer la protection de la ville de Goma et la cité de Sake. L'officier de la MONUSCO présente également la situation sécuritaire qui a prévalu cette semaine en Ituri, mais aussi les actions menées par les casques bleus pour protéger la population. Le major Hassan Keira s'entretient avec Sifa Maguru.
Major Hassan Keira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier au bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO. La MONUSCO a lancé l'opération Springbok visant à assurer une protection optimale de la ville de Goma et de Sake. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte cette opération s'inscrit et nous décrire un peu son déroulement?
La situation sécuritaire actuelle et les combats entre les groupes armés locaux et le M23 dans les régions de Kichanga, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo ont entraîné des pertes en vie humaine, des déplacements et des dommages à la majorité de la population civile. La MONUSCO, en collaboration avec le gouvernement de la RDC et conformément à son mandat, a soutenu les FARDC dans la recherche de la paix dans la région et surtout dans la protection des civils à tout prix. Le M23 a progressé vers le sud en direction de Sake et Goma, ce qui a conduit la MONUSCO à lancer l'opération Springbok. L'objectif principal de cette opération conjointe entre la MONUSCO et les FARDC est la protection des citoyens de Goma. Goma est le plus grand centre de population de l'est de la RDC avec beaucoup de camps de personnes déplacées. Nous avons déjà déployé nos troupes sur le terrain et elles sont prêtes à stopper toute tentative d'invasion de Goma. Il s'agit d'une position défensive et la MONUSCO est prête à intervenir si nos forces sont engagées par un groupe armé illégal qui tente d'entrer dans Sake ou Goma. De même, si les FARDC demandent notre soutien ou elles sont attaquées, la MONUSCO est prête à fournir le soutien.
Parlons de l'Ituri. Les groupes armés Codeco continuent à commettre des actions malicieuses dans cette partie. Quelle est la situation?
Le 29 octobre dernier, trois individus armés de machettes ont semé la panique au village de Chubert. Du coup, la MONUSCO a envoyé une patrouille des soldats de la paix du Bangladesh pour dominer et assurer la protection des civils dans cette zone. Aussi, le réseau d'alerte communautaire a reçu une information concernant une incursion par le groupe armé Codeco le 3 novembre dernier, au niveau de Blokwa, où ces mercenaires ont attaqué des personnes civiles et tiré plusieurs coups de feu. Ces personnes ont réussi à s'enfuir et ils ont rapporté cet incident aux dirigeants des personnes déplacées internes de Rou. Le bataillon Bangladesh du déploiement rapide de la MONUSCO a envoyé sur le champ une patrouille pour dominer l'axe Blokwa Okapi Jisa. De ce fait, la situation sécuritaire est calme et normale. Aussi, le 4 novembre dernier, le Banardebe de la MONUSCO a envoyé une patrouille pour dominer l'axe Jisa-Larue en réponse à une alerte concernant une probable agression par le groupe armé Codeco dans cette région. La MONUSCO a également partagé cette information avec les FARDC de Masombuko et a sensibilisé le réseau d'alerte communautaire pour la protection des civils. Et durant cette opération, des tirs ont été entendus à partir du sud-ouest vers la direction de Jisa-Okapi. La patrouille de la MONUSCO s'est rendue en compagnie des FARDC sur les lieux pour mettre fin à la confrontation entre les groupes armés Zaïre et Codeco en tirant des coups de semences. La patrouille a ensuite dominé les zones environnantes de Blokwa, Jisa-Okapi et l'Argu Bazar pendant toute la nuit.
La MONUSCO travaille en collaboration avec les FARDC pour contrer les groupes armés comme ce qui se passe en territoire des Djougou. Alors, quelle a été la réaction des casques bleus?
Justement, le 8 novembre dernier, la base opérationnelle permanente de la MONUSCO à Fataki, située à 12 km au nord-est de Djougou, a été informée de la présence de nombreux combattants du groupe armé Codeco dans la région de Lébi, à 20 km au nord-est de Djougou. Et des échanges de tirs en cours entre le groupe armé et les soldats des FARDC. En réponse à cette information, la base de Fataki a envoyé une patrouille dans la région de Lébi. Là, la patrouille a observé des mouvements des individus du Codeco sur une colline située à environ 300 mètres au nord-ouest du camp des FARDC à Lébi, qui était en état d'alerte. Et les FARDC ont informé la MONUSCO que ces milices se dirigeaient vers le marché de Lébi et ont demandé à la MONUSCO de mener une patrouille conjointe dans cette zone. Alors que les troupes de la MONUSCO et les FARDC s'approchaient du marché de Lébi, les malfaiteurs ont ouvert le feu sur nos militaires. En réponse à cette agression, les soldats de la MONUSCO et les FARDC ont tiré à leur tour sur les milices de la Codeco. En conséquence, les assaillants ont quitté la zone et se sont dirigés vers le nord, incendiant certaines maisons précédemment libérées.
Major Hassan Keira, merci pour ce point sur la situation sécuritaire.
Nous sommes en Ituri. Les opérations militaires de mutualisation entre le FARDC et le casque bleu de la MONUSCO contre les éléments de groupes armés réfractaires au processus de paix portent du fruit dans les territoires de Djougou, Mahagui et Irumu. C'est ce qui ressort de la réunion mixte d'évaluation sécuritaire tenue mardi dernier par le gouverneur de province à Bounia. Pour l'autorité provinciale, l'objectif est de redynamiser ces opérations pour la protection des civils en cette période électorale. Le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Tous les commandants de FARDC des états-majors du secteur nord de la 32e région militaire, du secteur opérationnel de l'armée à Ituri et de la MONUSCO et les chefs du bureau de la mission onusienne ont pris part à cette réunion stratégique. Au menu de leurs échanges, évaluer les succès et les faiblesses de ces opérations conjointes dans les zones où certains miliciens de groupes armés commettent des exactions contre la population locale. C'est là dans le but de dynamiser ces opérations pour une meilleure protection des civils en prévision des élections générales prévues en décembre prochain. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC à Ituri.
Il était question pour le lieutenant général Lubo Yakancha Madzoni de transmettre sa philosophie du commandement en tenant compte des enjeux actuels, de protéger la population et de créer un climat de confiance entre la population et le défense pour un aboutissement erré du processus de paix et électoral.
Une accalmie et les retours des nombreux déplacés s'observaient depuis quelques mois dans les entités ciblées par ces opérations conjointes FARDC MONUSCO. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Les élections sont prévues le 20 décembre en République démocratique du Congo. Quel type d'appui la MONUSCO apporte aux autorités congolaises pour préparer ces scrutins? Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, a répondu à cette question. C'était lors de son passage à New York dans une interview accordée à ONU Info.
De trois ordres. La première, c'est qu'on a un appui logistique à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans les trois provinces où nous sommes déployés. Parce que notre mandat dit très clairement, vous allez aider sur la logistique, mais avec les ressources dont vous disposez et là où vous êtes présentement déployés. Donc, Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Et puis, on a les bons offices, et en général, les gens disent les bons offices, c'est quoi ? Bon, c'est du plaidoyer pour s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent qu'il y a des principes pour des élections de qualité. Et là, donc, notre rôle, le mien et celui de mes collaborateurs et collaboratrices, c'est de propager, d'amener toutes les parties prenantes à comprendre que des élections de qualité, ce sont des élections qui sont transparentes, ce sont des élections qui sont crédibles, ce sont des élections qui sont inclusives, et ce sont des élections qui se passent sans violence. Et donc, d'avoir ces principes être monitorés, nous permet de dire aux uns et aux autres, attention, là, on n'est plus du tout dans un environnement qui va être paisible, où des actes qui ont été posés vont amener à une exclusion de certaines personnes ou de certains partis, ou même voir pour nous aussi la mise en œuvre de la résolution 1325, qui est de dire, bon, il faut bien que la mise en œuvre de cette résolution se traduise aussi dans le processus électoral. Et donc, nous faisons beaucoup de travail en ce qui concerne la participation des femmes comme électrices, mais aussi d'accompagner les femmes à être mieux équipées pour tout ce qui concerne leur candidature pour des postes à la fois de députée provinciale ou députée nationale, et aussi celles qui se présentent aux élections présidentielles.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Trois dates, mais quatre événements à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 20 novembre, c'est la journée de l'industrialisation de l'Afrique, également la journée mondiale de l'enfance. La journée mondiale de la télévision intervient, elle, le 21 novembre. Enfin, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est la fin de cette émission à retrouver sur le site de votre radio, www.radiocapi.net. Billy Landry-Bétou à la technique, Babel Pongo-Massimango au micro. Et merci à vous qui venez de suivre cette émission produite, coordonnée et réalisée par Jeff Opela. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix.